L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Nous avons reçu en studio à Strasbourg un invité de la rédaction, David Onona, officier de réserve, officier du renseignement de Tsahal. Il cumule 310 jours de réserve à Gaza, dans le nord d'Israël et au Liban, en lutte contre le Hezbollah. Il nous parle de sa mission.
J'ai effectivement effectué 310 jours de réserve dans Tsahal, dans l'armée israélienne. Et je suis hors des limites d'âge, donc je suis volontaire, comme beaucoup d'Israéliens, à peu près 30% des soldats. Qui sont les combattants, c'est jusqu'à 45 ans, les officiers jusqu'à 55 ans, moi j'ai un peu plus. Et donc on peut signer un volontariat si on est en forme physiquement, en forme mentalement. Et donc effectivement, je suis officier du renseignement. Alors tout a commencé le 7 octobre, même si on va se concentrer sur le Liban. Et j'ai été appelé tout de suite le 7 octobre. On a d'abord été en défense dans le nord face au Hezbollah pour éviter de vivre un deuxième 7 octobre, c'est-à-dire une incursion des commandos Radouane, les forces spéciales du Hezbollah, sur Israël.
Dès le début, après le 7 octobre.
C'était le 7 octobre même, puisqu'on est arrivé dans le nord le soir même. Il y avait des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont portés volontaires et qui étaient au nord pour défendre la frontière, pour éviter que les villages soient envahis, les villes soient envahies et qu'on ait une situation incontrôlable. Déjà, elle était tellement difficile dans le sud. Donc je suis mobilisé donc, depuis le 7 octobre, le 8, avec l'ordre officiel. Le temps que tout ça, que l'administration se mette en route. Mais nous étions présents à la frontière déjà le 7. Donc j'ai fait quelques mois dans le nord, en défense, puisque le Hezbollah a fait le choix d'une guerre à basse intensité, en tirant des roquettes sur les villages, mais en évitant une escalade qui aurait contraint Tsahal, Israël, à rentrer à l'intérieur du Liban. Et ça a duré pendant 13 mois. Et à un moment, l'État d'Israël a décidé que ça suffisait, qu'il était temps de passer à une autre étape. Soit le Hezbollah arrêtait de tirer sur Israël. Précisons que le Liban n'a pas de conflit territorial avec Israël, n'a pas de conflit de gaz ou de maritime. Tout ça a été scellé dans des accords. Il n'y a pas de juifs, bien évidemment, au Liban. Il n'y a pas d'Israéliens qui occupent le Liban. Israël est sorti du Liban il y a maintenant plus de 20 ans. Et malgré tout, ce pays, qui est un pays reconnu par l'ONU, très proche de la France, tire sur Israël tous les jours 20, 30, 40, 50 missiles, tue des Israéliens, des civils, tue des militaires, mais également a contraint 85 000 Israéliens à quitter leur maison, leur foyer. Et ceci pendant 13 mois, ça veut dire, Valérie, 2 années scolaires pour les enfants. Ça veut dire un tissu économique détruit. Et à un moment, l'état-major israélien, avec, bien sûr, c'est une démocratie Israël, une décision politique, décide de mettre un terme. Et donc, il va y avoir une série d'actions, les beepers que tout le monde connaît, les talkie-walkie, l'exécution de la chaîne de commandement du Hezbollah, l'exécution de Nasrallah. Et finalement, le 23 septembre, Tsahal rentre au Liban, rentre à pied avec ses chars et les hommes, et donc je me suis retrouvé effectivement avec des objectifs au sud du Liban de nettoyer, les objectifs étaient nettoyer et détruire toute l'infrastructure terroriste des unités spéciales de Radouane, les commandos du Hezbollah, qui étaient prépositionnés le long de la frontière bleue, le long de la ligne bleue, le long de la frontière avec Israël, et prêts à attaquer les villages, les villes, et à prendre des gens en otage, à tuer, à violer, à assassiner, quelque chose qu'Israël a décidé de traiter. Le deuxième objectif, c'était à terme, ramener nos habitants dans leur foyer. Israël est un pays souverain, même si au niveau international, sa légitimité aujourd'hui est contestée, même si aujourd'hui on est accusé de tous les maux de la terre, le peuple génocidaire et autres. Et on a transformé la victime juive du 7 octobre en assassin et en nazi, et en bourreau, ce qui est un tour de force de la communication et de la propagande. Et malheureusement, Israël est coupable de cela. Pour nous, il s'agissait donc de détruire l'infrastructure du Hezbollah et de ramener les habitants au nord.
Aujourd'hui, au Liban, les infrastructures du Hezbollah, elles ont été mises à mal. Vous avez attaqué certains sites. C'est comme les sites que vous aviez trouvés à Gaza, sous des infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles.
Oui, alors je ne peux pas vous dire dans quelle unité exacte je travaille, ni le numéro de l'unité. Je ne peux pas vous dire exactement où j'étais au Liban, mais j'étais au Liban Sud pendant un mois et demi. Et je peux vous dire par contre que j'ai été extrêmement choqué par la puissance du Hezbollah au niveau de sa puissance de feu. C'est-à-dire qu'on a trouvé des munitions, on les a montrées dans toute la presse internationale, des missiles, des cornettes, des missiles balistiques, des dizaines de milliers de grenades, de fusils mitrailleurs Kalachnikov, de chargeurs. On a retrouvé des tous les équipements. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer un Libanais du Hezbollah, un chiite, venir en slip, descendre dans le tunnel, par le puits, aller s'équiper dans la chambre forte, et ressortait en combattant de commando avec tout l'équipement, le casque, l'uniforme, les chaussures, mais également les moyens médicaux et tout l'armement et les munitions nécessaires, y compris les tracteurs de terrain, donc les véhicules tout-terrain, les motos, qui devaient permettre de rentrer en Israël, les plans d'invasion de la Galilée, les cibles stratégiques. Et la plupart des Israéliens qui étaient avec moi, certains sont jeunes bien évidemment, étaient choqués de la quantité d'armes, de la sophistication, de la préparation de ces attaques, qu'on appelait le plan de conquête de la Galilée, qui était affiché par Nasrallah, qui jurait dans tous ses discours détruire à terme Israël et occuper la Galilée.
C'est une occupation.
C'était vraiment ça. Et donc nous, on a été choqués de la quantité d'armes, de munitions, pire qu'à Gaza. Des tunnels de partout, des puits de partout, dans toutes les maisons, on avait effectivement ces traces de munitions, ce plan de destruction, alors que le sud Liban est magnifique, c'est vraiment une région méditerranéenne, il y a des oliviers en terrasse, il y a des bougainvilliers, il y avait tout pour faire un lieu de vie, et malheureusement le Hezbollah a transformé cette région en lieu de mort, dans le but d'attaquer Israël, ce qui était pour nous inconcevable de vivre une deuxième attaque comme le 7 octobre, et donc il fallait faire cesser les tirs. Et j'espère qu'on arrivera petit à petit à un accord avec le Liban et qu'enfin le Liban sera sage.
Aujourd'hui, Israël a des frontières délétères. On parlait de Gaza, du Liban. Il y a l'Iran également. La Syrie, pour le moment, la situation est calme.
Non, puisque la Syrie, c'est un des 7 fronts qui attaque Israël avec les Houthis au Yémen, avec la Judée-Samarie, avec l'Irak. On nous tire de partout, en vérité. Pas seulement le Liban et les Palestiniens à Gaza. Israël a 7 fronts à assumer, seul. Vous savez combien ça a été difficile, combien le soutien envers Israël est versatile, hein, entre un président Macron qui nous déclare au lendemain du 7 octobre qu'il faut faire une coalition internationale pour lutter contre les islamistes du Hamas et du Hezbollah, et qui aujourd'hui, dans la presse, même si ce soir il sera présent au match, c'est ce qu'il a annoncé France-Israël, il ose déclarer que nous sommes des barbares.
Et ça a des fins électoralistes, là, c'est pour charmer un certain électorat, ici en France.
Moi, je peux juste vous exprimer le dégoût et le choc que ça produit chez les franco-israéliens que je suis. La France est mon pays de naissance. La langue de Molière est une langue que j'aime particulièrement. Mes enfants et mes petits-enfants parlent le français. Tout le monde a un passeport français. Et quand j'entends le président de l'État français tourner le dos à Israël, je le vois tourner le dos. Je vois une gradation même dans son rejet d'Israël, je suis choqué de cela, parce que moi je combats avec des hommes qui sont avec une éthique extrêmement élevée, et une armée extrêmement morale, on fait tout pour ne pas toucher les civils, eux se servent de nos otages civils et personne n'en parle, on a encore plus de 100 otages dans les geôles du Hamas. On a, Valérie, largué des centaines de milliers de tracts au-dessus de Gaza, après la mort de Sinwar. Et on a demandé aux Palestiniens de nous donner une information sur un otage, un enfant, un adulte. 3 semaines sont passées.
Il y a de l'argent qui a été proposé.
Plus des centaines de milliers de dollars. Personne n'a donné une information. Et c'est terrible. Moi qui suis un enfant, deuxième génération de la Shoah, et mon père a été accueilli, protégé et sauvé par des non-juifs qui l'ont accueilli pendant 3 ans chez eux, au péril de leur vie. Quand je réalise que dans la bande de Gaza, sur plus de 2 300 000 habitants, pas un Palestinien de Gaza, pas un Gazaoui, n'a été capable à un moment d'humanité par rapport à ces otages, je suis en état de choc. Et le monde, je n'ai jamais entendu finalement les dirigeants de ce monde dire aux Gazaouis, libérez les otages et puis la guerre s'arrête. Comme on n'a pas non plus entendu le président Macron dire au Liban, arrêtez de tirer sur Israël qui est un pays légitime, autonome, il n'y a pas de conflit. Et il tirait tous les jours. Et c'est à Israël qu'on demande le cessez-le-feu.
Vous vous sentez seul
ça,
aujourd'hui
c'est... Il y a une vraie solitude d'Israël, c'est le livre de Bernard-Henri Lévy. Voilà, alors après, je ne peux pas juger le président des Français. J'ai dit mon dégoût, je peux le dire. C'est comme ça que je le vis. Ma colère aussi, intérieure. Qu'est-ce qu'il vise ses conférences futures dans les pays arabes c'est sordide de dire ça, c'est cynique un peu.
Aujourd'hui,
est-ce que c'est électoraliste je ne sais pas, c'est terrible.
L'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est quelque chose qui a été très, très observé, hein, parce qu'aujourd'hui, il peut, lui, avoir une clé pour faire cesser ce conflit et surtout amener la paix en Israël.
Alors, j'ai déjà du mal à m'exprimer sur la politique française. Oui. Moi, j'ai juste exprimé un sentiment de colère et de dégoût sur
c'est
Trump.
C'est votre sentiment qu'on demande.
Sur Trump, je vais dire une chose qui est marquante pour moi, c'est le départ potentiel des gens du Hamas, de Doha et du Qatar. C'est insupportable. Je veux dire quand on voit Haniyeh qui a aussi été exécuté en Iran et sur le territoire des Iraniens à Téhéran par Israël, cet homme qui s'agenouille en direct des massacres le 7 octobre et qui décrit ce jour comme étant un jour grandiose pour la cause palestinienne, héroïque. Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque à violer des femmes, à attacher une fille et sa mère avec du fil de barbelé, à les brûler vives, à violer une sœur devant ses frères et sœurs et son père. Où est l'héroïsme dans les massacres de Béhéri, de Haza? Nulle part. Et donc cet homme qui est le concepteur du slogan « From the river to the sea », c'est-à-dire, ça veut dire plus d'Israël, hein, depuis la rivière Jourdain jusqu'à la Méditerranée, on va détruire Israël, c'est toute la Palestine qui doit être libérée. Ce Free Palestine aujourd'hui, c'est pas un appel à la coexistence entre un État juif et un État palestinien. Alors Trump, moi je regarde les faits souvent, c'est la demande et la pression sur le Qatar de dire si le Hamas ne fait pas d'accord, si les otages ne sont pas libérés, si on ne met pas un terme à cette guerre, si on ne s'assoit pas autour d'une table, si on ne construit pas un avenir dans la paix et le respect, eh bien sortez du Qatar, on ne peut pas être l'allié des États-Unis, alors même que les Américains sont aux mains du Hamas depuis maintenant plus de 400 jours, on ne peut pas être un allié d'une démocratie et servir le terrorisme avec un double discours. Et sur la France, j'ai été sévère avec le président Macron. Je voudrais rappeler quand même que le 14 avril et le 1er octobre, quand l'Iran attaque Israël, des soldats français participent à la défense de l'État hébreu. Et ça, c'est l'équilibre que je vous dois. Des batteries de missiles français de défense aérienne ont été tirées sur ces missiles et ont sauvé des vies en Israël. Et il faut être mesuré dans les propos. Après, on joue malheureusement en France un jeu dangereux avec les communautés juives qui sont stigmatisées, un antisémitisme qui caracole, qui est complètement débridé. Et ça, en tant qu'Israélien, ça m'inquiète énormément parce que les Juifs sont assimilés à Israël et on s'en prend à eux. Violer une fille de 12 ans à Paris, agresser des gens à Strasbourg, les insulter, mettre des tags antisémites, mais c'est révulsant.
Cette guerre de communication, elle est très très difficile à faire passer quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des députés qui sont clairement antisémites et qui l'affichent. Mm-hmm. On vous sent, vous, c'est la chose que je vous disais en off avant l'interview, on ne vous sent pas en colère, vous êtes déterminé, vous êtes froid face aux éléments, parce que c'est certainement aussi votre statut de soldat. Nous ici, on est beaucoup plus en colère, on a quelque chose parce qu'on n'a pas les moyens d'agir. Vous êtes sur place, vous pouvez agir.
Il y a trois choses dans ce que vous dites. La première chose, je ne pourrais pas être ailleurs. J'ai écrit un journal qui a été publié dans l'Arche, un journal de guerre, que j'invite les lecteurs à découvrir, dans lequel j'essaye d'être sage. C'est-à-dire qu'entre les combats, je suis un homme d'écriture, donc je prends des bouts de papier, et j'écris ce que je ressens, mes idées, mes pensées. D'un côté, pour moi, la défense d'Israël, c'est l'endroit où je dois être. J'ai dit que j'étais un enfant de la Shoah, mon père est survivant de la Shoah, j'ai été élevé avec ça, et il faut que les Juifs soient debout, se battent, et personne ne viendra mourir à notre place en Israël. Personne. On peut nous aider sur des choses aériennes, mais aucun soldat étranger ne viendra mourir pour défendre le peuple juif à Jérusalem ou dans ses frontières. Et donc je suis calme là-dessus, je fais le travail, je suis même plutôt fier de le faire et très fier de mes hommes, cette jeune génération. Donc on a traité tous les noms en Israël, les sociologues pensaient que c'était des gens superficiels, TikTok et autres, et ils ont montré un courage et une bravoure absolument remarquable et un niveau moral et d'éthique absolument, et je veux les saluer, ces jeunes soldats israéliens qui viennent de faire 4-5 ans d'armée et qui viennent d'ajouter une année de guerre à leur palmarès. Moi j'ai un fils qui a 31 ans, 5 ans d'armée, et 1 an de guerre, ça fait 6 ans, 4 ans d'études, il n'a jamais travaillé, il a 31 ans, il est chef de famille et il continue de donner au pays, il est en ce moment sous les drapeaux, mais de gendre également. Après, sur la situation en France et dans le monde, je suis atterré de cette haine antisémite, de cette haine d'Israël. C'est-à-dire, où sont les gens sages? Où est la parole sage? Où est la pression sur nos ennemis? La pression sur les Juifs, sur Israël? La stigmatisation du Premier ministre? Je peux comprendre tout ça. Je suis tout sauf un homme d'extrême droite. Et vraiment, ça me révulse. La haine de l'autre, c'est quelque chose qui est intolérable chez moi. Mais où est la pression mesurée pour dire que l'attaque du Hamas est une attaque génocidaire sur Israël? Sa volonté et son slogan est génocidaire sur les Juifs. On n'entend pas ses voix. Donc Trump, on revient à la question de Trump, il est clair là-dessus. Et pour autant, c'est un homme un peu agité. Moi, j'aime bien les gens calmes. Donc, je suis un peu comme vous, Valérie, un peu comme les journalistes. Je regarde, j'écoute, je lis. Je sais qu'aucun soldat américain ne viendra mourir sur les plages israéliennes pour nous défendre. On a besoin de cet allié stratégique. On a aussi besoin de la France et de l'Europe. On aurait besoin de cette chaleur parce qu'effectivement, les Juifs ici se sentent seuls et les Israéliens aussi. Mais je prends cette épreuve que vit le peuple juif comme une épreuve parmi son histoire. J'ai la chance d'être un homme d'histoire et je comprends que la vie du peuple juif n'a pas toujours été un long chemin tranquille. Donc on est dans une tourmente. J'espère qu'on va tourner la page rapidement, qu'on va retrouver de la sérénité et que ça finalement, de ce chaos, naîtra un nouvel Israël encore plus fort, encore plus ouvert, que les Palestiniens enfin prendront la voie de la coexistence et de la sagesse et qu'on sera capable de créer un autre Moyen-Orient. C'est ce qu'on essaye de faire en changeant la donne.
David Onona, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
Et de la santé, et puis la paix bientôt.
À la santé et la paix pour vous.
Au revoir.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.